Toujours à l'écoute de Radio Esperanza, il y a du monde autour de la table. On est avec Adèle de la caravane de Yagora. Il y a aussi Justine des Valideuses. Il y a Caro de la Barbe. Et Zoé du collectif 8 mars. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Zoé, peut-être commencer par toi, puisqu'on vient d'écouter la chronique d'Odile et de Diego sur art et femmes. Et vous faites signer une pétition.
Ouais, donc entre autres sur le stand du collectif 8 mars, mais qu'on a, enfin c'est vraiment important de le dire, c'est qu'il n'y a pas que le collectif 8 mars, il y a tous les collectifs que tu as cités, mais en fait il y en a même d'autres. Qui sont représentés dans le pôle féministe. Et on a décidé avec le collectif 8 mars de soutenir un des collectifs justement qui s'appelle le collectif Badass. C'est un collectif namurois qui invite à signer une pétition pour le retrait. Donc en plusieurs choses, mais donc d'abord la première chose, c'est la pétition pour retirer l'œuvre de l'artiste Fabre. Vous savez, à la citadelle de Namur, il y a cette énorme tortue. En doré, cette grosse tortue dorée avec dessus en fait un autoportrait de l'artiste, et en fait l'artiste a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'agression, de harcèlement à caractère sexiste et sexuel. Et du coup le collectif Badass appelle dans un premier temps à la faire retirer, mais aussi à se questionner sur finalement les représentations en fait patriarcales dans l'espace public, et en fait de se dire mais ok, c'est bien de la faire dégager, parce que ce gars à un moment doit arrêter de toucher du pognon. En fait, à un moment, le nerf de la guerre, c'est le pognon, et donc tant qu'il aura du pognon grâce à ça, ça n'ira pas. Et mais donc de se questionner et de réfléchir, qu'est-ce qu'on a envie de mettre à la place. Et donc l'objectif, il est double ici. On a vraiment décidé de soutenir ce collectif-là parce qu'on est dans la région, mais aussi d'inviter les festivaliers et festivalières à se poser la question de si pas la statue, la tortue de Fabre, quoi. Et donc l'idée, et passer au stand, nous donner vos idées aussi, puisque l'idée c'est de dire le plus vite possible cette statue dégage pour plein de raisons, mais aussi le plus vite possible elle est remplacée par quelque chose qui sera porteur, qui sera inclusif et qui glorifiera pas un trou du cul.
En plus, si vous êtes festivalier, vous pouvez aller vous faire pailleter pour l'occasion.
Oui,
c'est
parce
votre amorce, là, votre hameçon.
Mais oui, parce que c'est hyper important, tu vois, de discuter de la statue, de discuter comme on peut le faire avec la barbe, on fait une genre de cartographie, tu vois. C'est des trucs plus pas prise de tête, mais pour que les gens viennent jusque nous et qu'on les accroche, avec des super paillettes, de la super sérigraphie. Et donc c'est trop cool. On peut shiner dans le festival. En passant par le pôle féministe, c'est assez cool quand même.
Bah oui, à fond. Bah en tout cas, moi hier j'en ai profité. Et du coup, j'ai signé.
Mais oui, c'est ça. En fait, il y a plein de gens qui passent et puis qui disent mais en fait, on a vu les paillettes, mais vous faites quoi sinon? Sinon, on invite à signer la pétition, on invite à réfléchir sur la suite de ce truc-là. On en voit aussi. On a vraiment la chance cette année d'avoir des valideuses qui sont là. Et c'est une chance, tu vois, de pouvoir discuter de l'inclusivité, même dans un festival et tout. Et du coup, c'est cool d'avoir un petit produit d'appel qui, après, peut renvoyer les gens vers toutes les belles choses dont on a envie de discuter avec elles.
On continue peut-être notre petit tour de table. Est-ce que tu peux aussi présenter ce que tu fais ? La caravane de Diagora, c'est quoi ?
Alors, donc Jagora, en fait, c'est une association de personnes entre 16 et 35 ans où il y a plusieurs projets dedans. Donc, les bénévoles de Jagora créent leur propre projet. Et la caravane, c'est le projet qu'on a présenté à Esperanza. Donc, avec la caravane, nous, on veut déconstruire les stéréotypes, les préjugés et donc arriver à effacer les discriminations dans ce cas-ci de genre, mais pas que. Donc, on a différentes activités pour réfléchir et pour, comme j'ai dit avant, déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir parce que tout le monde a des stéréotypes et des préjugés dans son esprit. Et parfois, c'est même inconscient. Et nous, on veut vraiment démontrer que tout le monde en a. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut les déconstruire. Voilà.
Et à votre stand, on peut jouer aussi, c'est assez ludique.
Oui, c'est ça. On a différentes petites activités. L'une qui est pour enfants, par exemple. On fait piocher aux enfants des petits jouets. Et puis, on leur montre différentes photos d'enfants. Et on leur dit à quel enfant voudrais-tu donner le jouet que tu as pioché. Et puis ils nous disent, bah, je sais pas, si je pioche une Barbie, je veux la donner à la fille blonde qu'il y a sur la photo. Pourquoi est-ce que la Barbie, c'est seulement pour les filles? Et on les fait réfléchir sur ça. Et en fait, au fur et à mesure du festival, on s'est rendu compte que les enfants sont vraiment beaucoup plus ouverts d'esprit et ont vraiment moins de choses à déconstruire que beaucoup de personnes, plus, bah, les adultes, quoi.
Et t'as dit que c'était pas grave, mais pourquoi il faut les déconstruire alors?
Bah, c'est pas grave, dans quel sens? Dans le sens que c'est presque... comment dire? Parce qu'on grandit dans une société qui nous impose des préjugés, qui nous impose des stéréotypes, dans une société patriarcale, dans une société colonialiste, etc. Donc c'est pratiquement impossible de dire qu'on n'a pas de stéréotypes. Et il ne faut pas nous condamner pour ça. Il ne faut pas nous dire si j'ai un comportement, si une fois je me fais une réflexion, ce qui est un peu sexiste, je suis sexiste, je suis un monstre. Non, mais c'est vrai qu'il faut déconstruire ta pensée sexiste.
Et puis, faut déconstruire, sinon après on se retrouve avec des statues et des gens, voilà. Enfin des statues horribles dans l'espace public et des gens qui trouvent ça normal en
oui,
fait. Donc,
c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est pas que c'est pas grave, tu peux avoir des raisonnements sexistes, mais c'est juste que t'es pas un monstre pour les avoir parce que. Que la société nous porte à ça, mais voilà, c'est bien d'y réfléchir dessus. Voilà.
Ah, je vais peut-être te prendre au dépôt, je sais pas, mais est-ce que tu es venu avec un petit jeu pour nous faire jouer ou pas?
Alors, on vient de me l'enlever, mais oui. Ah,
c'était la grosse boîte là-dedans.
Ouais, c'était la grosse boîte. En gros, on a créé vraiment récemment, il y a quelques heures, ce petit jeu où je vous balance une phrase. Et on va faire comme ça. Je vous balance une phrase, je vous donne des options et vous devez deviner qui a dit cette phrase. Donc par exemple, si on a rien ne sert de débattre avec une femme, est-ce que c'est Berlusconi qui l'a dit, Mélenchon, Poutine ou Oscar Wilde?
Je croyais que tu allais nous donner deux choix déjà. Ah, tu veux bien redire la citation, s'il te plaît?
Bah oui.
Tu veux bien redire la citation? Rien ne sert de te battre avec une femme.
Rien ne sert de débattre avec une
débattre,
femme.
Débattre.
Ah, moi je vois bien Berlusconi, il est bien. C'est bien son genre, hein, lui.
Bah, je crois que moi Poutine, aussi. Ça l'intéresse pas le débat de toute manière, donc on peut l'éliminer. Ouais, Mélenchon, ce serait quand même une grosse surprise. Hein. Ouais, Berlusconi. C'était quel le quatrième?
C'était Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
Ah,
poétiquement comme ça.
Voilà.
Poétiquement. Ouais. J'en sais rien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop littéraire pour Berlusconi. Mm. Rien ne sert de débattre avec une femme. Ouais, il aurait dit. Je sais pas quoi. Ouais, femme. Bah ouais.
Zoé, Justine,
ouais.
Caro, vous avez une idée?
Je crois qu'on a.
Ah, elles ont vu sur la feuille.
Moi, perso, je suis sur le stand et j'étais à côté d'elles quand elles ont crié, donc je vais pas faire genre, je sais.
Donc, c'est quand même un petit piège qu'on a surpassé, non? C'est Oscar Wilde.
Non.
Ah.
Et alors, c'était Poutine.
Ah oui, pourquoi
ça n'intéresse quand même le débat. Bah, si, j'ai dit débat.
Oui.
Bah, ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas surprenant.
Par contre, une petite perle d'Oscar Wilde, c'est les femmes se divisent en deux catégories, les laides et les maquillées. Donc voilà.
Merveilleux, c'est magnifique.
Voilà, et ce petit jeu en fait c'est pour montrer comme on est vraiment envahi de sexisme partout. On est dans la littérature parce que Oscar Wilde c'est mené comme le grand littéraire et tout, dans la politique. Même Mélenchon qui est un candidat de gauche a dit l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté. Contre une autre candidate qui avait fait un service sur une magazine. Et Berlusconi, Poutine, Léo Ferré même a dit des phrases. Donc on a plein d'exemples de personnes qui habitent nos télévisions, nos radios, nos livres d'école et tout, qui en fait étaient des très mauvais modèles en tant que personne féministe ou un truc comme ça.
Et qui normalise un peu les choses,
oui.
Finalement.
En fait, oui, c'est pour montrer vraiment comment c'est normalisé le sexisme au sein de notre société. Voilà.
Et c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal de gens quand ils passent sur les stands, ils disent mais pourquoi il y a encore besoin d'associations? Ouais, ça c'est un truc qu'on, enfin en tout cas nous on a eu pas mal. C'est des gens qui disent oui mais pourquoi vous continuez de vous battre? C'est bon le patriarcat, c'est un vieux truc et tout. Et bah quand t'entends le jeu de Jagora, t'es là-bas.
Est-ce qu'elle ne dit pas c'est qu'il y a des phrases de femmes? C'est pas
aussi
que des hommes.
Ah oui, oui.
Il y a des phrases de femmes.
Un exemple, t'as ça sous les yeux?
Oui, oui, oui. Voyons. Il y a.
Kate Winslet.
Kate Winslet, oui, par exemple, critiquer l'écart salarial entre hommes et femmes est un peu vulgaire. Kate Winslet l'a dit en réponse...
C'est l'écart salarial qui est vulgaire.
Ouais. En fait, c'était en réponse à Jennifer Lawrence qui avait justement dénoncé le fait qu'elle, elle était payée beaucoup moins de... par rapport à, je crois, Chris Pratt ou un truc comme ça dans un film. Et Kate Winslet lui a dit, bah, c'est un peu vulgaire de parler de ça. Bon.
Et Zoé, je voulais revenir un peu sur ce que tu viens de dire avec certaines personnes te disent, oh, est-ce qu'il y a encore besoin de faire ça? Mais ici, à Esperanza, est-ce que vous prêchez pas un peu des convaincus, en fait? Est-ce que c'est pas ça qui joue un peu?
Mais on pourrait penser qu'on prêche des convaincus. Non.
Non.
Non, et même, enfin, je veux dire, c'est, pour moi, c'est ça aussi, occuper le terrain, c'est être présente, et être présente en nombre et en masse. Et c'est ça aussi, cette année, on a vraiment voulu, avec les autres assos qui sont ici autour des micros, rebosser ensemble, parce qu'on avait eu l'occasion de le faire l'année dernière. Et en fait, être ensemble, c'est aussi faire front ensemble, occuper le terrain, être dans le village des possibles, prendre de la place. Et en fait, non, on prêche pas que des convaincus. Malheureusement, il y a encore beaucoup de taf à faire. Et en fait, c'est vraiment important d'être là, d'occuper l'espace dans le village, d'occuper l'espace dans le festival, de rappeler des choses. Enfin, moi, je repense à la banderole de la barbe qu'en fait on réutilise depuis 2 ans, qui est sur le nombre d'artistes, la représentativité dans les artistes. Bah, si la barbe avait pas une année dénoncé le fait que en fait ce soit un problème, ben il y aurait pas tout ce travail qui est fait et qui est mis en avant, quoi.
Oui. Bah oui, en fait en 2018 la barbe était intervenue. Est-ce que j'explique d'abord un peu ce qu'est la barbe? Du coup la barbe c'est un collectif justement qui lutte contre l'invisibilité des femmes dans les instances de pouvoir et on a un mode opératoire. Un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va dans des conférences, des festivals où il y a une majorité d'hommes représentés et on monte sur scène et on fait une intervention, un discours satirique avec une barbe pour un peu dénoncer justement cette invisibilité des femmes. Et il y a 4 ans, ici à Esperanza, on était monté sur la scène Futuro pour justement dénoncer aussi cette invisibilité dans le festival parce que il y avait que 25% de femmes programmées d'artistes féminins à Esperanza. Voilà, là ça a un petit peu évolué, mais c'est pas enfin comparé à d'autres festivals, c'est mieux, mais il y a encore des efforts à faire.
Et on va vous questionner hein, parce que justement on a eu Jean-Yves ouais, et ouais. Vous avez pu discuter de ça à ce moment-là ouais. Et donc on va diffuser dans quelques instants son interview et on vous demandera un peu votre avis. Avant ça, Justine, ouais. Les Dévalideuses, c'est quoi?
Donc c'est un collectif féministe et anti-validisme et donc c'est l'angle qu'on prend sur le site. Donc on demande aux gens si ça leur parle le féminisme. La plupart étonnamment connaissent de loin et donc c'est ce système d'oppression qui touche les personnes handicapées et donc on a une série de bonnes résolutions pour encourager des comportements plus positifs. C'est un collectif français puisque moi quand j'ai cherché à rejoindre un collectif qui ne défendait pas juste une vision ou juste un handicap, une maladie, ça n'existait pas en Belgique et donc je suis la seule membre belge, d'où le fait que je suis la seule présente à Esperanza.
Tu parlais du terme de dévalidé.
Ouais.
Est-ce que vous, vous savez ce que c'est, Guillaume, Federica, vous savez ce que c'est?
Non. Dévalidé.
Ouais. Pourquoi vous appelez comme ça? Est-ce que tu peux le dire?
Parce que la société, c'est une société validiste, créée par des valides, pour des valides. Et donc, il faut casser ça. Donc, on a toute une série de bons comportements. Et c'est vrai que les gens, dans la plupart des choses, trouvent ça logique. Mais par exemple, hier, je parlais avec une fille en lui disant, par exemple, à un festival ou au cinéma, on sort toutes les salles sortent en même temps, il y a la file chez les filles. La fille, elle dit, je regarde autour de moi, je vois personne en fauteuil, je prends la toilette PMR. Donc elle dit, je gêne personne. Je dis, moi, j'ai une maladie au muscle, je ne sais pas me retenir, c'est pas très glorieux de dire ça, mais si j'ai pas cette toilette-là, je suis vraiment un peu embêtée, quoi. Et donc, il y a eu toute une réflexion chez elle sur le moment de se dire, j'y avais jamais pensé, et comme on le disait justement, est-ce qu'on prêche pas des convaincus? Non, il y a toujours des gens, il y a des petites choses à leur rappeler, et c'est jamais fait par malveillance. Je pense que surtout les personnes handicapées qui sont totalement invisibilisées, donc on a vu 30 secondes Grand Corps Malade hier en duo avec Suzanne, donc la représentativité des personnes handicapées dans les affiches de festivals, c'est encore tout autre. Mais voilà, il y a toutes des petites choses à faire, et c'est juste que comme on n'est pas visible, les gens savent pas comment se comporter avec nous, les gens savent pas à quoi faut faire attention, et donc voilà, c'est toujours important d'être là pour rappeler les petites choses à faire et surtout à ne pas faire. Il y en a pas
et,
mal.
Et de manière plus culturelle aussi, tu disais qu'il y a des écrivains, etc.
Oui, il y a tout ce qu'on appelle une creep culture, ouais. Donc la communauté des personnes handicapées a toute sa propre culture. Il y a vraiment, voilà, il y a des auteurs, il y a des auteureux, il y a des podcasteurs, podcasteuses, il y a des acteurs. On ne les voit jamais parce qu'on fait toujours jouer le personnage ou les personnages de personnes handicapées par des valides. Et c'est généralement un personnage secondaire, c'est souvent un méchant, surtout quand il a l'air un peu moche. Voilà, on n'est pas du tout représenté, mais toute cette creep culture existe. Là, sur le stand, je cite souvent le documentaire Creep Camp qui est sur Netflix. Je le cite parce que beaucoup de gens ont Netflix, donc c'est accessible. Voilà, et ça explique un camp de colo aux États-Unis où voilà, c'est des enfants handicapés qui allaient en colo et qui ont vécu leur première histoire d'amour. Les éducateurs faisaient des courses de fauteuils roulants, les ont laissé fumer leur premier joint, des choses comme ça. Ils ont juste découvert la vie, et puis tous ces gens-là sont devenus les premiers militants qui ont vraiment poussé pour avoir des Disability Act aux États-Unis. Faut quand même savoir que le monde anglo-saxon est 100 000 lieues en avance de nous à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup plus de militantisme, beaucoup plus de prise de conscience, beaucoup plus de lois, etc. Nous, on est vachement en retard.
Mais tu vois, tu disais c'est important de rappeler des petites choses et tout ça. Et puis là, finalement, tu as un autre modèle d'action qui va plus loin, quoi.
Mais c'est parce qu'on rappelle aux gens, mais par rapport aux politiques et aux lois, il se passe rien. Enfin, si, de temps en temps, on nous offre une loi. Moi, j'appelle ça des lois sparadrap. Donc, on nous fait un petit truc dans un côté pour nous dire ça y est, vous êtes contents, tel ministre a adopté un chien guide, c'est bien, non ? Vous voyez qu'on pense à vous. Oui, mais nous, c'est pas ça qu'on demande. On demande que toutes les écoles soient accessibles, on demande que les personnes handicapées puissent travailler où elles veulent, qu'elles puissent habiter où elles veulent, qu'elles puissent aller à l'école où elles veulent, qu'elles puissent venir en festival sans se casser la tête. Enfin, il y a plein de trucs qu'on demande, et on demande pas juste de temps en temps un petit chèque d'un événement caritatif ou une petite mesure comme ça à laquelle on pense pour, entre guillemets, nous calmer, quoi. Donc, par rapport aux gens, il y en a quand même beaucoup ici à Esperanza qui sont déjà sensibilisés, notamment on a aussi beaucoup d'enfants. Par rapport aux politiques, il faut qu'on devienne beaucoup plus radical et radicaux.
On arrive déjà à la fin de ce petit tour de table.
Mais surtout qu'on a annoncé qu'on allait écouter Jean-Yves.
Mais peut-être avant ça, juste pour faire le lien avec la thématique suivante qui est migration et décolonisation, je voulais reprendre un peu une phrase qui a été publiée dans le dossier Femmes des migrations du journal Les Sans-Papiers. Et donc, il relaie en fait le discours de Bintou Touré, qui est membre de la coordination des sans-papiers de Belgique, et à la fin de ce discours, en fait, elle en appelle au mouvement féministe de saisir de cette question des violences faites aux femmes sans-papiers, et je voulais en fait avoir un peu une réaction de votre part par rapport à ça.
Moi, je pense que c'est une question transversale. Moi, tous ces cloisonnements, c'est un peu ce que je voyais dans le handicap, où chacun a sa petite asso, ça devrait être transversal. On devrait défendre tous les droits de toutes les femmes, quelles qu'elles soient, que ce soit des femmes sans papier, des femmes handicapées, peu importe. Pour moi, ça devrait être un grand mouvement qui va de l'avant, et on a tous ce même objectif, que chacun ait plus de chacune surtout ait plus de considération, plus de droits, plus de visibilité.
Mais du coup, il y a aussi un vrai truc où les mouvements féministes massifs et qui rassemblent énormément de gens doivent aussi se saisir, et c'est ce qu'elle dit dans sa fin de discours, c'est on doit se saisir de ces questions-là pour les visibiliser et les soutenir, en fait. Enfin, on ne sera libre que quand tout le monde le sera, en fait. Et donc c'est pas suffisant de juste vouloir, je sais pas, on parlait d'écart salarial, c'est pas suffisant de juste vouloir réduire l'écart salarial et puis c'est bon. Non, les femmes ne seront libres, les femmes et les minorités de genre ne seront libres que quand tout le monde le sera. Et donc ça passe par la question des migrations, ça passe par les questions du validisme, ça passe par tellement de choses. On peut pas juste se limiter à dire ah, mais on parle de l'écart salarial ou de... je sais pas moi, du droit de grève, quoi.
Oui, la convergence des luttes, c'est super important, en fait. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. On peut pas juste lutter pour une cause en particulier. Tout est relié, en fait. Et ça, c'est toujours important de ne pas oublier ça.
Ouais. Mais moi, j'entends bien et c'est très partagé. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on articule des thématiques différentes dans ces émissions-ci. Après, à chaque fois, je me demande, faut pas se limiter, d'accord, mais singulariser les luttes quand même... ça a sans doute son efficacité. Enfin, si vous mettez tous les œufs dans le même panier, on peut juste faire des grands combats humanistes et puis point barre, ouais. Parce que les combats pour les hommes, enfin on va prendre des trucs très précis, sont aussi liés aux autres et tout est lié aussi, vous voyez, donc ce truc de convergence qui a l'air nécessaire, peut-être qu'il demande aussi à garder une détermination des luttes sur lesquelles on reste. Je sais pas, c'est une vraie question.
Oui, mais souvent c'est sur les modes d'action et sur, tu vois. Par exemple, moi je fais partie du collectif Humeurs où on bosse beaucoup la question de la grève, en fait, de l'accès à la grève féministe pour les femmes, de montrer que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. C'est hyper important, mais en fait, si c'est que des femmes blanches qui ont des super postes qui s'arrêtent, en fait, la journée continuera normalement. Ce qui se passe très souvent, c'est que par exemple, les femmes qui travaillent, voilà, qui vont bosser, elles vont confier leur gamine ou leur gamin à qui ? À des femmes. Souvent, c'est des femmes racisées qui ont des emplois plus précaires. Et en fait, c'est hyper important de bosser, par exemple, pour nous, la question de la grève, mais en fait, la grève accessible à tout le monde, à toutes les femmes, et notamment de parler des femmes qui sont sûrement moins visibles. Moi, demain, je peux faire grève. Mon employeur, tu vois, j'ai un contrat, j'ai un CDD, j'ai accès à la grève et j'aurai même une indemnité le jour de ma grève. Par contre, la dame qui fait le ménage dans l'école où j'étais en secondaire, peut-être qu'en fait, elle risque juste de perdre son emploi parce qu'elle est sans papier et qu'elle, faire grève, c'est pas possible.
Et c'est pas contradictoire, on peut se concentrer sur sa lutte et en tant que collectif, soutenir un autre collectif, et ça permet aussi, en termes de visibilité et auprès des politiques, de voir que ce collectif-là, il se bat pas tout seul et qu'on est sur nos luttes, mais qu'au moment où il faut les soutenir, on est aussi là pour dire, nous, en tant que collectif, on est autant et on est derrière ces personnes-là. Je pense pas que ce soit forcément contradictoire. Je pense que ça permet d'être chacun sur nos thématiques, et puis il y a des moments où on se rassemble et on se met tous derrière l'un ou derrière l'une, et ça donne encore plus de poids à certains combats au moment où il le faut, je pense.